Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Cyril.
Salut Barthélémy.
Comment vas-tu aujourd'hui ? J'ai cru comprendre que tu étais dans un cadre assez idyllique et au soleil pour cette interview.
Ah bah le cadre idyllique, c'est chez moi. J'ai de la chance d'habiter à Lyon, il fait beau, la piscine est là, et moi je peux reprendre le sport gentiment, parce qu'il y a 3 mois c'était pas la même histoire, je venais de fracturer le pied, donc là j'étais un peu chafouin, mais là ça va bien, ça s'est à peu près consolidé, donc j'ai pu reprendre le vélo, la natation, et puis je vais attendre encore un petit peu pour courir.
D'accord, ok, comment est-ce que tu t'es fait ça?
Pendant le confinement, bêtement, c'est même pas en faisant du sport, c'est accident domestique. Donc voilà, comme je le disais, ne pas faire de sport pendant le confinement, c'est peut-être pas une bonne option. Continuer de faire du sport, ouais, mais il y a des risques, on va aller à l'hôpital. Moi, je me suis retrouvé à l'hôpital, mais pas à cause du sport, à cause de mon confinement. Et voilà, donc je suis tombé vraiment bêtement et triple fracture du tarse. Et voilà, 2 mois, dans une chaise à presque pas bouger, quoi, le pied en l'air. Hein.
D'accord, ok, je vois. Bon, pas très drôle, mais en tout cas, ça a l'air de se rétablir, donc tant mieux. Et bon rétablissement pour la suite. Je te le disais juste à l'instant, avant de commencer, moi j'aime bien commencer par l'enfance, comme deux copains qui parlent au coin du feu et qui se racontent un petit peu leurs années passées. Et la question traditionnelle pour démarrer un petit peu ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, alors j'ai 46 ans, donc ça remonte à loin, mais j'avais 5 ans et sur les tatamis. Mes parents trouvaient que j'étais assez actif et donc ils cherchaient un sport pour moi et puis ils m'ont mis sur les tatamis et donc j'ai commencé avec le judo.
D'accord, ok. Et tu es monté jusqu'à quelle ceinture ?
Ah, ceinture jaune. Ceinture jaune et en fait c'était pas vraiment fait pour moi, j'aimais pas trop le combat en frontal. Ouais. Et puis en plus j'aime pas la confrontation contre une personne, j'aime pas les conflits, donc le judo, ouais. Le but c'est pas de se battre, hein, c'est d'absorber l'énergie, etc. Mais malgré tout je me sentais pas super bien sur les tatamis, et puis deuxième raison et pas des moindres, c'est j'étais asthmatique, donc me retrouver sur les tatamis avec les poussières, les acariens et tout, etc. En fait je respirais pas bien et c'était vraiment un vrai problème pour moi. Non, j'en ai pas fait très longtemps, en fait, du judo.
Ok, d'accord, ok. C'est marrant, ouais, parce que moi aussi, je suis allé un tout petit peu plus loin, mais c'est dû à un papa qui avait une ceinture noire et qui a fait plusieurs fois les championnats de France étant plus jeune et du coup, qui m'a vraiment poussé. Et moi aussi, je suis allergique aux acariens et quand il me voyait rentrer avec les yeux tout rouges, il pensait que je pleurais. Et je lui dis, je pleurais pas parce que je perdais. Je pleurais parce qu'effectivement, c'est un peu un nid à poussière, c'est dojo. Voilà, faire attention pour les enfants. Et tu as fait d'autres sports du coup étant plus jeune ?
Ah bah oui, enfin après le judo, du coup c'était, enfin on va arrêter là l'histoire hein, pour cette raison-là. Et bah comme voilà, tu l'as dit, hein, moi je pleurais aussi sur les tatamis pour les mêmes raisons que toi. Donc on m'a dit bah on va lui mettre un sport où il va falloir développer ses facultés respiratoires. Donc ma mère est courue un petit peu avec moi comme ça par plaisir, mais surtout ils m'ont dit on va lui faire de la natation. C'était le médecin qui a dit ce serait bien de le mettre à la natation et j'ai découvert l'élément voilà de l'eau. Dans lequel je me suis vraiment tout de suite plus, ça a été vraiment ma révélation, c'est pas de nager, c'est pas la compétition, c'est surtout de me retrouver dans l'eau, et même j'ai envie de dire de ne plus respirer. Moi, ma passion, c'était de couper mon souffle et d'aller sous l'eau, de faire des apnées. À 5-6 ans, c'était mes premières excitations sportives, de dépasser mes limites, c'est je retiens mon souffle et je reste sous l'eau le plus longtemps possible.
D'accord, ok. Et tu l'as fait, t'as poussé un petit peu l'apnée un petit peu plus loin ou c'était juste un petit jeu
Non, je pense que j'ai toute une vie pour explorer cette discipline. Mmh. Les années passent, chaque année je me dis ouais, j'aimerais bien faire de l'apnée et j'en ai jamais fait vraiment en club hein. Mais je suis vraiment fasciné par les mecs qui font ça à tel point que bah voilà, c'est tombé à peu près pas longtemps après que Enzo et puis donc le film emblématique du Grand Bleu est sorti sur les écrans et ça m'a marqué mes à vie quoi. Donc moi qui adore l'élément de l'eau, j'ai vu ce film-là je me suis dit, voilà, amuse-toi dans l'eau, fais-toi plaisir, à défaut d'avoir la mer, va à la piscine, parce que j'habitais en région parisienne, donc loin de la mer, et cette discipline m'a plu, mais j'ai pas pu développer l'apnée, par contre, je bougeais bien dans l'eau, ça va, je trouvais mes appuis, donc je me suis mis à faire de la compétition, et puis après c'est devenu, moi c'était plus un jeu pour moi, j'allais nager pour rencontrer les potes, mais j'étais pas très bon individuellement, mais collectivement on faisait des trucs sympas, donc on a fini par être champion de France, mais en relais, dans le club dans lequel j'étais, c'était à ma phase d'adolescence.
Ok, c'est sur quelle distance, par curiosité?
C'était les relais, c'était 4 fois 100 mètres nage libre, mais moi, ma discipline, c'était le dos. Ouais. J'aimais bien nager.
D'accord. Ok, d'accord. Ah, super, super intéressant, ouais. Mais, c'est marrant ce que tu dis parce que je le vois chez beaucoup d'autres sportifs de haut niveau, la camaraderie, quoi. L'importance de l'entourage, l'importance de l'équipe. Toi, j'ai l'impression en plus que c'est quelque chose qui te marque beaucoup dans ton parcours, c'est être bien entouré, être avec les bonnes personnes. Et donc c'est marrant que tu le cites en tout cas dès maintenant parce que c'est quelque chose que je revois très souvent. Étant enfant, t'as jamais pensé à, je sais pas, en faire une carrière pro? Est-ce que quand on est, je sais pas, quand on est jeune, quand on a 15-16 ans, ça remonte à 30 ans en arrière, mais est-ce qu'on rêve de devenir champion olympique? Est-ce qu'on rêve de ça?
En tout cas, c'est pas vraiment un rêve pour moi. Moi, le sport à la télé, c'était plus au travers de mon papa qui était un fan du PSG, qui m'emmenait voir le football. Je trouvais pas trop ma place dans les sports collectifs, j'aimais bien mais je trouvais pas forcément ma place. Je trouvais vraiment dans mon épanouissement dans le sport, le développement individuel de ma discipline mais partagé. Pour les Jeux Olympiques, ouais, je les regardais, ça me fascinait mais sans que je me dise un jour je ferai ça. Je me suis jamais dit un jour je serai champion olympique. Ouais. Parce qu'on m'avait un petit peu marqué quand j'étais gamin en me disant, vu les facultés physiologiques qu'il a, il n'ira pas bien, bien loin. Parce que bon, l'asthme n'était que la partie émergée de l'iceberg, parce que la partie un peu plus immergée, c'est que j'avais un souffle au cœur et que j'ai pas des grandes facultés pulmonaires de par ma naissance. Je les ai développées en nageant et en faisant du sport.
Ok. Et est-ce que tu peux, alors je vois très bien ce que c'est que l'asthme, hein, c'est des fois c'est la respiration qui se bloque un peu et on a des petites crises. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir un souffle au cœur?
Quand j'étais gamin, je me retrouvais dans des espaces à la rouée, des espaces un peu humides, je pouvais plus respirer, je suffoquais. Et puis après, carrément avec la tête qui tourne, des envies de vomir. La nuit, je pouvais pas dormir. Puis après, des crises d'angoisse. On parlait d'épilepsie, je me sentais vraiment à la limite de ce que pouvait être, ce que je pouvais imaginer comme étant une crise d'épilepsie, quoi. Donc avec le cœur qui les sueurs froides, et ça m'arrive encore parfois, hein, des fois j'ai d'un seul coup je me retrouve avec des sueurs, ça m'arrive encore aujourd'hui, très rarement, mais ça m'arrive aujourd'hui.
Ok, je vois mieux. et euh, Et bah écoute, moi c'est quelque chose que bon, on en reparlera beaucoup après parce que c'est ta spécialité, mais en tout cas effectivement la méditation et le contrôle sur la respiration, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et notamment sur mon stress et sur mes angoisses. Donc pour être quelqu'un de très nerveux, donc tu me donneras des tips parce que c'est toi le spécialiste. Et j'ai cru comprendre aussi que vers 18-20 ans, tu t'étais mis à la course à pied et qu'on t'avait encore découragé de faire ce sport parce que tu avais des petits problèmes de dos, c'est ça?
Ouais, alors bah déjà, quand je courais à l'école, parce qu'il fallait courir, faire les tours de stade, puis il y avait les crosses, etc. Non, je le faisais, mais ouais, voilà, une fois de plus, j'y allais parce que mes parents y allaient, j'y allais parce qu'il y avait des copains, qu'après il y avait un méchoui, il y avait des trucs, voilà, c'était les années 80, et dans les années 80, enfin, les parents, ils mélangeaient tout, quoi, l'entreprise, le sport, la vie familiale, on se retrouvait avec leurs collègues, on faisait Noël, on faisait plein de festivités, il y avait les méchouis, les trucs, les fêtes, quoi, les grosses fêtes, et moi, c'est ce que j'aimais ça, me retrouver au milieu du monde. Alors, je suis pas un grand bavard à la base, mais j'ai toujours adoré me retrouver au milieu des gens. Et dans le sport, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc la course à pied, j'y suis venu un petit peu par procuration, mais sans une fois de plus sans performance, quoi. Et alors moi, les points de côté, c'était systématique, canaliser ma respiration, j'y arrivais pas, donc j'étais vraiment dans le milieu du paquet, et encore voire plutôt à la fin, quoi. Et donc je m'y suis mis parce qu'il fallait que je retrouve ma respiration, et parce que bah, finalement, ce que j'aimais aussi quand je courais, malgré tout, c'était aussi d'être au milieu de la nature. Donc mes parents, quand j'étais en CE1 de mémoire, oui, ils ont déménagé, on est allé à la campagne, et ça, là, j'ai aimé courir. Là, j'ai commencé à aimer courir, enfin courir, à trottiner, on va dire ça comme ça. Hein. Et pour être au milieu de la nature, avec mon père, j'allais chercher les champignons, je me baladais souvent en forêt. Et c'est ce que j'aimais au travers de cette discipline qu'est la course à pied, c'est connexion nature.
Ok, d'accord. Et je crois que c'est toujours quelque chose que t'as gardé, en tout cas, de ce que j'ai l'impression. Et mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant tout ça. Et parce que bah aujourd'hui, on va peut-être faire un plongeon un petit peu plus fort. Mais aujourd'hui, tu t'as fait plusieurs triathlons. Il me semble que tu as fait un Ironman, mais t'as fait bien plus parce que t'as terminé l'Enduroman, et je crois que tu as toujours le meilleur temps d'ailleurs. Est-ce que je me trompe?
Alors non, je l'ai plus depuis l'année dernière, mais on en parle ensemble. Mais moi, le triathlon est venu dans ma vie, pareil, un peu par hasard. Je nageais pour aller rencontrer les potes, les copines, évidemment, et puis avoir des déplacements, parce qu'on se déplaçait, on allait faire des compétitions. Puis après, la course à pied qui est arrivée, on se disait, je me suis dit, tiens, j'aime bien la nature, donc c'est sympa de se frotter un petit peu avec l'élément terrestre en marchant, en courant. Et puis quand j'ai fait mes études d'école de co, il y a un pote qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas du triathlon? Je dis bah pourquoi pas, et comme c'était mon meilleur pote, je dis bah voilà, c'est une bonne occasion de passer du temps avec un pote en plus, bah des cours, et donc de se retrouver à la piscine, d'aller nager, d'aller pédaler. Donc j'ai acheté mon vélo, j'avais quoi, 20-21 ans, et j'ai découvert la discipline du triathlon bah comme ça, quoi. Mais comme les choses se font jamais finalement par hasard, moi je dis jamais de mes phrases, il n'y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Et si j'ai découvert le triathlon, bah c'est pas par hasard, c'est grâce à une rencontre. C'était Cédric, qui est toujours un très bon pote aujourd'hui d'ailleurs, et puis Cédric s'est entraîné à Paris, moi j'étais en école de co avec lui, et puis il me dit bah tiens viens, je suis Racing Club de France, inscris-toi là-bas. Racing Club de France, waouh, bon bah écoute, on y va, après tout pourquoi pas. Et je me rendais même pas compte, c'était le meilleur club de France à l'époque, avec les meilleurs internationaux, quoi. Et je me suis retrouvé entre les mains de Laurent Chopin, pareil, à 21-22 ans, et Laurent Chopin qui entraînait le club, qui a par la suite entraîné les meilleurs Français dans les années 90-2000. C'est aussi un pote aujourd'hui, un très bon pote à moi, on se voit fréquemment, il habite à Beauvais, et on collabore même ensemble sur pas mal de sujets. Voilà, une fois de plus, donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des belles rencontres, et c'est ce qui m'a amené au triathlon. Et d'ailleurs, tu me posais une question quand même, j'ai pas répondu, je pourrais m'en excuser. Tu m'as dit, c'était pas prémédité ce sport-là pour moi. Non, ça l'était pas, parce qu'en fait, courir, déjà, on m'avait dit, cours pas trop, parce que, t'as quand même, une scoliose, et t'as surtout un tassement de vertèbres. Donc, ça, c'est pas très bon, courir avec un dos comme le tien. Alors, c'est ce qu'on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit plus ça, mais à l'époque, on disait ça. Et quand j'ai dit au kiné, je me mets au vélo, il m'a dit, non, surtout pas, le vélo, c'est encore pire. Donc, cours pas, fais pas de vélo, et moi, je vais dire, c'est au même moment, quoi.
Ok, ouais, donc tu t'y mets, mais quand même avec des avis pas très encourageants, et du coup avec la volonté de prendre soin de ton corps, j'imagine.
Ouais, enfin la volonté surtout de passer des bons moments avec avec Cédric et puis de me dépasser quand même, ouais, parce que tu te retrouves dans le Racing Club de France, là t'as Philippe Fattori à côté de toi, t'as Stéphane Poulain, et moi j'étais nageur, mais bon, j'excellais pas non plus, hein, je suis un nageur correct, convenable. Bon, dans le triathlon, oui, je me retrouve quand même parmi les bons. Quand je sors de l'eau, je me retrouve parmi, allez, les 5%, voire parmi les premiers en fonction des courses, mais là, de me retrouver avec ces athlètes, ça faisait bizarre, quoi. Moi, je me suis jamais vu comme un athlète, comme un champion, comme ça. Jamais. Vu d'où je venais, pour moi, c'était même pas du rêve. C'est pas accessible pour moi de côtoyer ces gens-là. Et là, 21 ans, je me retrouvais dans les mêmes. Alors non, j'étais pas dans leur ligne d'eau. J'étais dans la ligne d'eau d'à côté, quand même. Il y avait les pros dans leur ligne d'eau, et puis à côté, il y avait les autres, quoi. Mais on s'en faisait les mêmes entraînements qu'eux.
D'accord, ok. Oh, génial. Et ça te donne envie à l'époque de voir un petit peu, je sais pas, leur rythme de vie et tout, parce que je sais que c'est un peu particulier. Quand on découvre un petit peu ça sur le tard, moi j'ai découvert le triathlon à 22-23 ans et en fait, j'ai vu pas mal de copains se décourager en voyant un petit peu effectivement ce que c'était que le haut niveau et la quantité de travail que ça demandait et surtout le retard, quoi, le retard qu'il faut combler. Toi, c'est quelque chose qui t'a encouragé
Là, pour le coup, je pense que je suis né avec un état d'esprit qui m'amène pas à me poser pas voir les choses comme les gens les voient. C'est-à-dire que dès qu'ils voient un obstacle, les gens me disent, pas pour moi, ou dès qu'ils voient que ça va prendre du temps, j'ai pas le temps, ou ça va coûter de l'argent, j'ai pas l'argent pour ça. Et moi, en fait, à chaque fois que j'ai eu des événements dans ma vie, je me suis jamais posé la question si je pouvais le faire ou pas le faire. Pourquoi pas? C'est ma vie, pour moi, c'est ça, c'est des pourquoi pas. Et puis, tu démarres un truc de façon peut-être un peu futile, un petit peu amateur. Ouais. Mais tu découvres l'amateurisme sans te poser la question, est-ce que je serai pro demain ou je le serai pas? La question s'est pas posée pour moi. Donc est-ce qu'il faut faire 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures de sport par semaine? J'en sais rien, je fais les choses comme le temps que je peux trouver. La priorité, en tout cas pour moi à l'époque, c'était mes études. Donc ça me prenait quand même du temps. Je prenais les transports en commun. J'ai découvert en fait l'organisation du temps à cette époque-là, parce que j'habitais en banlieue parisienne, je prenais le train le matin. J'allais à l'école. Ouais. Le midi, on allait s'entraîner avec Cédric. L'après-midi, on rebossait. Donc, c'était à l'ISG, moi, l'école. Après, en fin d'après-midi, j'allais bosser chez GoSport, donc temps partiel. Et après, je filais à rue de Lota, 21h pour l'entraînement de natation. Et le soir, je rentrais chez moi. Je reprenais le RER, direction Fosse-sur-Villers, RERD. Et je rentrais chez moi à 22h. Et puis, je dormais. Et puis, le lendemain, ça recontinuait pareil, quoi. Et c'était ma vie, quoi. C'était comme ça. Je me posais pas de questions si j'ai du temps ou pas de temps. C'est comme ça, quoi. Et puis je profitais du train pour bouquiner, et c'était ça faisait déjà une vie bien remplie. Donc peut-être que je démarrais près de jeu avec un planning bien chargé, mais j'apprenais surtout à l'organiser, à me structurer.
Ok. Et j'ai vu aussi dans ton parcours que tu avais énormément travaillé, en tout cas professionnellement, de ton école et après. J'ai cru comprendre que tu étais un gros bosseur, au tel point que t'en as fait un petit burn-out, un petit. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce superlatif avant, mais bref, peu importe. Mais est-ce que t'as continué à pouvoir t'entraîner ou pas? Parce que c'est vrai que c'est un vrai challenge, tu vois. Moi, comme toi, je suis un passionné d'organisation. Je suis un maniaque des process, des calendriers et des horaires.
Ouais. Avec un chef d'entreprise, un très gros chef d'entreprise sur la région lyonnaise, et il me disait, on était en train de monter le mont, j'ai oublié le nom, dans les monts d'or, et il me dit, il parlait d'un gros projet pour l'année prochaine, et il disait à son coach qui était avec nous, le rêve devient un projet à partir du moment où tu mets une date. Tant que t'as pas de date, ça reste un rêve, quoi. Donc moi, j'aime bien cette idée-là, c'est qu'à un moment donné, on dit moi j'avais 25 ans, je travaillais donc à l'époque chez Decat, j'étais chef de caisse, un gros bouclard, et il y a un des gars du rayon C qui dit je vais sympathiser, qui est du triathlon aussi, il me dit tiens, je fais Embrun cette année, ça te dirait? Je dis pourquoi pas. J'avais jamais fait d'Ironman, mais l'idée de faire un, après avoir fait un marathon et fait des triathlons. Alors en plus, entre temps, j'ai eu des enfants, une vie professionnelle qui commence à bien se remplir. Mais en brun, c'est un truc qui était très mythique pour moi. Là, pour le coup, il y avait un vrai mythe et un vrai désir de le faire. Mais je pensais que j'étais pas prêt. Mais puisque mon pote me dit moi je le fais, pourquoi pas toi, je dis allez, pourquoi pas banco. Et puis là, je me fais une préparation de 8 mois pour faire cet Embraman. Et 26 ans, j'ai une belle profession, j'ai fait mon Embraman, j'ai une belle situation familiale avec ma femme de l'époque. Et rentrer un petit peu dans la vie sentimentale, cette femme me dit, qui était ma femme à l'époque, mais t'es pas heureux. Et à force de, parce que j'avais fait Embrun, j'avais peut-être, sans m'en rendre compte, j'étais directeur de magasin après 28 ans, donc tout s'était vraiment super bien passé pour moi. Tout ce qu'on m'avait appris en école de co, le succès, la réussite et tout, ça y est, je l'avais touché du doigt en très peu de temps. Ta femme te dit t'es pas heureux. Et elle me le dit souvent. Je dis, au bout d'un certain temps, je me dis, elle a sans doute raison, et c'est là que je tombe un petit peu, alors je sais pas si c'est un burn-out, une dépression, en tout cas, je suis pas bien. C'est là que je remets tout à plat, quoi, et je me dis, finalement, va chercher au fond de toi, où est ton bonheur? Est-ce que c'est dans le dépassement? Est-ce que c'est dans la performance? Est-ce que c'est dans l'entreprise? Je savais pas trop, j'étais vraiment paumé. Et j'ai changé complètement ma vie, j'ai arrêté de faire du sport aussi, le triathlon fini. Je savais plus trop où j'étais à 32 ans, quoi, en gros.
Ok, d'accord. Ouais. Et tu peux nous raconter un petit peu cette période-là, même si ça doit réveiller des souvenirs pas très agréables. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quel point tu tombes et comment est-ce que tu t'es relevé?
Moi, pour ce qui me concerne, en tout cas, tu cherches des réponses aux questions. Parce que t'as des témoins de ta vie, alors certains qui te voient épanoui, d'autres qui te voient pas, et puis les proches qui te sentent pas forcément super heureux. Donc tu cherches des réponses aux questions, pourquoi je suis pas heureux, si tant est qu'il y a une réponse. Je suis allé voir des psychologues qui essaient de faire la psychanalyse. Alors moi, j'aime pas trop cette idée de fouiller le passé, j'aime bien aller dans le futur, ou être au moins dans le présent. Je suis plutôt un homme de imaginer l'avenir. Et là, pour le coup, c'était machine en arrière, on va recruter dans le passé, on va voir ce qui s'est passé, pourquoi ces blessures, pourquoi ça va pas. Ça m'a plus frustré, plus agacé qu'autre chose. J'ai laissé couler tout ça. Le temps est passé. Et puis après, je me suis remis en mode, ma vie finalement s'est faite de projet. Assumons ça et vivons de nouveaux projets. Alors, malheureusement, j'ai changé de vie familiale, sentimentale. Parce que il y a des enfants, donc qui ont été témoins de ce passage-là. Ça, c'est pas simple. Mais je me suis reconstruit, tel que je suis, c'est-à-dire avec des projets, avec l'envie d'aller de l'avant. Et puis des gens qui autour de moi qui me font confiance et en qui moi, je peux avoir confiance aussi sans jugement. La problématique, je pense qu'elle est un peu là, c'est qu'on est tous un petit peu jugés, soit pour nos performances, soit pour notre qualité de relationnel, plein de choses. Et moi, comme me dit souvent ma nouvelle épouse, Laurence, avec qui je vis depuis maintenant 16 ans, elle me dit ce que j'aime chez toi, c'est que tu juges pas. Ça, c'est le plus beau. C'est un beau cadeau qu'elle me fait parce qu'elle me dit, t'es quelqu'un qui juge pas, qui est pas dans, elle me parle pas de tolérance, ça fait pas partie du dictionnaire, mais elle me dit pas de jugement, quoi. Et moi, j'aime bien cette idée-là de pas juger, de prendre les choses de façon simple. Je suis assez spinoziste, pour faire un peu de philosophie, c'est pas juger, essayer de comprendre les gens et juste comprendre, sans être Jésus, parce que Jésus disait, celui qui juge ne sait pas et celui qui connaît ne juge pas. Alors, je ne suis pas Jésus, mais j'aime bien cette idée-là de ne pas juger les gens.
Ok, c'est des très belles paroles et je pense qu'on on vivrait dans un monde bien meilleur, tu vois, si on jugeait un petit peu moins ce qui se passe chez le voisin et ce qui se passe chez les autres.
Excuse-moi de te couper la parole, Barthélémy, mais je pense à nos éditeurs qui sont quand même dans une recherche de peut-être pas d'excellence, mais de performance, d'amélioration, parce que quand même extraterrien est là pour donner un petit peu de vécu de certaines personnes, mais d'inspiration et puis d'aider à dépasser ses limites ou d'aller un peu plus loin. Et je pense qu'il faut être toujours vigilant sur ces notions-là parce que souvent dit aussi le mieux c'est l'ennemi du bien. Alors fais déjà bien les choses et puis après si tu arrives à mieux faire c'est bien. Dans le sport il y a ce côté des comparaisons aux autres et qui peut amener à du jugement justement parce que je suis pas là au niveau où je devrais donc on va se juger les uns les autres au lieu de à défaut de se jauger se regarder soi, se jauger, s'évaluer et puis faire ce qu'on peut avec ce dont on dispose quoi et comme tu l'as dit tout à l'heure moi ce qui me fait triper dans la vie c'est de se dépasser mais pas au détriment de sa santé, c'est grâce à l'expertise des autres et des personnes qui sont là pour t'aider, t'accompagner vers tes projets.
Eh ben écoute, ouais, tu fais très bien de me rappeler à l'ordre. C'est vrai que le nom du podcast et puis aussi beaucoup d'invités ont effectivement sont très portés sur la compétition, sur la performance et effectivement déjà se regarder soi et faire un petit peu mieux chaque jour, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énormément. Donc
ouais, coach, hein, Laurent Chopin, j'en parlais tout à l'heure, qui a été mon premier coach de triathlon, ouais. Racing Club de France, que je côtoie toujours aujourd'hui, il me dit Cyril, c'est la performance, c'est l'adéquation, c'est un triptyque, c'est simple, la performance, c'est l'alignement tête corps environnement. Alors moi je parlais souvent du tête corps cœur, être aligné soi-même, voilà, entre ce qu'on veut, ce qu'on désire, hein, d'un point de vue intellectuel et mental, ce qu'on veut dans ses tripes et dans son corps, et ce qu'on veut d'un point de vue émotionnel. Et si toutes ces trois choses sont alignées, on est déjà bien, on est plus dans sa verticalité, on peut affronter vraiment tous les projets sereinement. Mais il y a surtout le triptyque, voilà, qui me plaît bien, moi c'est l'environnement, tête corps environnement. Si tu alignes bien tête corps, et on va en parler puisque tu parlais tout à l'heure de respiration, justement de pleine conscience, être dans l'instant présent, mais aussi pour mieux accepter ce qu'il y a autour de nous. Et parmi ce qu'il y a autour de nous, il y a la nature et puis il y a les êtres humains. Alors voilà, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Moi je critique absolument pas ceux qui veulent aller dans le déplacement de l'autre, être des compétiteurs, parce que c'est leur moteur. Moi j'ai Victor Debilco, qui est un mec génial, qui est un triathlète de très 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 bon niveau, qui a gagné plusieurs Ironman. Victor, qui était avec moi au club de Beauvais, il me disait moi Cyril, tu sais, tant que je suis pas premier, j'ai cette énergie intérieure dans les tripes qui fait que je me transcende. Donc voilà, lui, dès qu'il y a quelqu'un devant lui, c'est ce qui va le motiver. Et ça se critique pas, c'est comme, c'est son moteur. Moi, c'est pas le mien. Bien c'est sûr. Un moteur qui est différent.
Ouais. Mais c'est sûr qu'on est tous différents et je pense que il y a effectivement certains champions qui puisent, on va dire, leur performance dans une espèce de colère ou une espèce de rage interne qui est assez difficile à comprendre finalement des autres et effectivement on peut pas juger, en fait on peut pas juger ce qu'ils vivent ou s'ils comprennent, parce que c'est souvent des histoires personnelles, des causes personnelles et donc effectivement respecter la cause de chacun et si chacun peut trouver sa propre cause noble, c'est déjà beaucoup.
C'est exactement ça. J'écris ce que tu es en train de me dire. Chacun doit trouver ça un peu. À partir du moment où chacun trouve sa cause, après l'énergie, le moteur, il est pas ailleurs, quoi. Tu n'as pas besoin de dormir 10 heures pour récupérer. Tu dors 6 heures par nuit. Quand tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin, que tu as du sens et tu connais ta cause, tu es prêt à relever tous les défis. Donc les gens qui disent, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé leur cause.
Ouais, tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. T'as mentionné il y a quelques phrases. Tu as mentionné effectivement tes relations amoureuses et ta vie sentimentale. Et hier soir, tu vois, en préparant un petit peu cette interview, je regardais ton super TED Talk. D'ailleurs, j'en profite pour vraiment te féliciter parce que. Alors il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimé, effectivement le fait que tu racontes avec beaucoup de détails cette course sportive qui est l'Enduromane, mais il y a quelque chose que sur lequel je voulais vraiment te féliciter et te remercier, c'est effectivement de parler d'amour dans le sport et aussi dans la performance individuelle et dans l'épanouissement, parce que très peu de champions ou très peu de personnes, on va dire, qui ont touché le succès avec les mains. Alors après, il faut définir ce que c'est que le succès, mais très peu mentionnent en fait l'importance du couple, du duo. Et moi, je voulais te féliciter vraiment pour ça, parce que je pense qu'on n'arrive jamais à rien tout seul. Et je pense que la personne avec qui on partage ses nuits, avec qui on partage ses journées, c'est fondamental en fait d'être bien avec elle, d'être vraiment profondément amoureux. Et du coup, alors il y a la question un petit peu derrière ça, c'est quand est-ce que toi t'en as vraiment pris conscience de cette importance du duo et de la complicité amoureuse et comment est-ce que tu non, moi, comment est-ce que tu l'entretiens, c'est quoi tes secrets?
En fait, je vais J'aime bien ta façon de formuler la question et j'ai deux réponses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est moi intrinsèquement. Je pense que je suis né comme ça, voilà, avec cette quête de pouvoir être aimé peut-être, hein, avant de dire d'aimer l'autre, c'est déjà d'être aimé. Ça, c'est quelque chose que j'avais en moi, mais que j'avais pas identifié. C'est ma nature, c'est une nature profonde. Et quand on parlait de cause à l'instant, on la connaît pas forcément sa cause, on sait pas un peu sa vocation de vie. Ou on entend souvent dire, on est tous uniques et différents les uns des autres, et on a chacun une mission de vie sur Terre. Alors, c'est les grandes phrases. Certains ont envie de la chercher, d'autres ont pas envie de la chercher. Certains la trouvent, d'autres la trouvent pas. Moi, cette cause, en fait, elle était en moi. Donc ça, c'est la première élément. Et je l'ai découvert un peu par hasard pendant l'enduroman. Parce qu'en fait, donc après avoir couru 140 km entre Londres et Douvres, puis après tu traverses la Manche à la nage, puis après il y a le vélo. Mais moi, quand j'étais en train de traverser la Manche, à un moment donné, il y a le mental qui te lâche parce que ouais, tout le monde m'a dit ouais, mais pour faire ce que t'as fait, faut que tu sois fort mentalement. Alors oui, je m'étais préparé, donc mentalement tu peux être fort, physiquement. Évidemment, quoi, quand tu cours pendant 140 km et tu vas nager pendant 14 heures derrière, oui, physiquement, faut être préparé. Mais je pense que tout le monde l'a entendu tout à l'heure et c'est pas du marketing. Hein. Moi, je suis né comme je suis né. Hein. J'ai pas une VO2 max élevée. J'ai pas une capacité pulmonaire élevée. Donc, je m'étais préparé en conséquence. Donc, la préparation, évidemment, c'est important. Mais voilà, quand t'as la tête qui te lâche et que t'as le corps qui te lâche à un moment donné, c'est obligé, quoi. Tu nages pendant 14 heures, ta tête, elle est ailleurs, ton corps, il est meurtri, il reste plus rien, quoi. Bah, c'est là que j'ai découvert qu'il restait quelque chose, quoi. C'est le pouvoir du cœur, quoi, en fait, de l'émotion. Et, tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, il y avait Patrick, mon meilleur pote, qui était sur le bateau et qui m'alimentait au niveau nutritionnel. Il me tendait une perche. Pas le droit de toucher le bateau, hein. Il me tend une perche, tu vois, avec à boire et à manger. Et moi, je me nourris. J'ai vraiment l'impression, au bout de plusieurs heures de nage, d'être relié avec lui par un cordon ombilical. Enfin, ça dépasse un peu l'entendement, ce que je dis là, mais il y avait vraiment ce cordon ombilical. On communiquait tous les, parce que je le voyais à peine, hein, avec la buée dans les lunettes, puis les vagues, tu vois, je l'imaginais. Et à chaque fois, voilà, il y avait cette connexion entre lui et moi. C'était un vrai cordon ombilical, tu vois. Je me ressentais vraiment comme le bébé dans le ventre de sa mère avec Patrick. C'est ma vie entre ses mains, quoi. C'est exactement ça. T'es tellement fébrile, t'es tellement rien dans cette manche là, cette mer où tu vois rien autour de toi, t'es lié à l'autre, quoi. T'es complètement lié à l'autre, et tu as ta cause et les voies à l'autre. Et alors ce qui se passe après, alors c'est sur la fin, c'est Laurence. Et ça, je le raconte, ouais, dans le TEDx, parce que c'est un moment fort. Laurence, je croise son regard à un moment donné, parce qu'elle était pas sur le bateau d'arbitrage. Elle est arrivée vers moi, vers la fin là où j'allais abandonner. Sincèrement, j'en pouvais plus, j'étais épuisé. Ça faisait 12 heures que je nageais, précisément 12 heures que je nageais. Et là, je vais la voir et je dis, j'abandonne, quoi. Et elle m'a pas entendu. Et par contre, il y a pas eu la connexion du visuel, il y a pas eu de connexion des mots. Elle a rien entendu. Elle m'a juste envoyé une onde de choc. C'est vas-y fonce, etc. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle a hurlé, et moi cette onde de choc, ça m'a fait vibrer dans tout le corps. Et là, il s'est passé quelque chose. Alors c'est pas mystique, c'est pas voilà, je suis pas en train de parler d'un truc que je maîtrise pas. Je suis simplement en train de dire que pour moi l'énergie, elle se transmet d'une personne à une autre. Alors elle peut se transmettre par le mental, mais elle se transmet par l'énergie. Elle est là, quoi. Donc Patrick, tu vois, à chaque fois qu'il me nourrissait, il m'apportait des calories, oui, mais il m'envoyait son énergie. Et de la confiance, il m'envoyait une capacité de performance que je n'imaginais même pas. Et Laurence, elle m'a envoyé son amour, moi je l'ai reçu, et ça a vraiment transmis cette dose d'énergie au maximum, là où la tête et le corps, il y avait plus rien, quoi. C'est une histoire absolument, enfin moi, que je trouve fabuleuse pour moi, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Et le deuxième enseignement que j'aurais partagé avec tout le monde, c'est pas tant ce que j'ai vécu, c'est comment j'ai réussi à trouver cette réponse à cette question que tu poses. Mais Cyril, l'amour, pourquoi l'amour? Comment t'as réussi cette révélation? En fait, elle m'est pas venue elle était là en moi, mais je l'ai pas trouvée seule. Je suis convaincu que dans la vie, on a toujours besoin d'un mentor. Alors, pas qu'un seul, peut-être deux, peut-être trois. Moi, j'en ai plusieurs, des mentors dans ma vie qui m'accompagnent, des gens en qui j'ai une totale confiance. On pourrait parler d'amour là aussi, un amour platonique. Mais il y a Salah Eddine, c'est quelqu'un qui m'a formé sur le digital, absolument rien à voir. Mais cet homme-là, il a un don, c'est de poser les bonnes questions. Et à la fin, quand il t'a posé les questions, tu sais ce qui reste au fond de toi. Et c'est lui qui m'a réussi à trouver cette phrase, cette synthèse, cette substance de ce que j'ai en moi. Il m'a dit, Cyril, quand tu racontes ton histoire, ça me fait penser à quelque chose et je le partage avec vous, c'est aimer donne de la force et être aimé donne du courage. Voilà, il m'a dit cette phrase-là, je dis waouh. Et ça a touché évidemment tout mon corps, tout mon cœur, et je me suis dit c'est bon, il a compris mieux que moi ma cause. Okay. Donc, c'est que parfois on va chercher des réponses à des questions qu'on trouvera jamais. Finalement, aller vers les autres, c'est apprendre à mieux se connaître soi-même et à savoir ce qu'on a au fond de soi pour pouvoir, bah voilà, en donner encore plus de sens à ce qu'on fait au quotidien.
D'accord. Ok. Bah écoute, waouh, je suis un peu scotché là. J'ai pris des notes sur ce que tu avais dit parce que effectivement, j'aime beaucoup cette phrase de sur voilà, aimer donne de la force, être aimé donne du courage. Enfin, je trouve ça très touchant et ça a changé quelque chose dans ta relation du coup avec Laurence suite à la course.
Alors, elle est pas partie, elle est restée. Moi aussi déjà. C'est la bonne nouvelle.
Un bon point. Ça s'est endurci.
Non mais c'est à double tranchant cette histoire parce qu'en fait de dire à Laurence en gros c'est grâce à toi que j'ai fait cette épreuve, c'est grâce à toi que comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement derrière un grand héros se cache quelqu'un derrière quoi. Alors ça peut être une femme l'héroïne hein, et un homme derrière, pas seulement un homme qui réussit, une femme derrière. Moi j'aime bien l'autre idée aussi hein, qu'un homme est au service de sa femme, et j'aime bien cette notion de service. Et mais d'un autre côté Laurence ça lui met une sacrée pression parce que moi j'en ai écrit un bouquin derrière de mon aventure, j'ai parlé un petit peu pas qu'un peu d'amour, parce que le titre du livre c'est Aimer et atteindre le sommet. Donc j'ai en gros, si j'atteins le sommet, c'est grâce à l'amour qu'a Laurence. Donc ça veut dire quoi? C'est que si demain elle était plus là, j'atteindrais plus les sommets, ou ma vie ça rimerait plus à rien. Et ça c'est perturbant pour moi de s'imaginer que finalement un peu comme nos anciens, tu t'es avec une personne, tu finiras avec elle jusqu'à la fin de ta vie. C'est plus trop dans l'air du temps ça aujourd'hui hein, quand ça va plus tu tournes une page, ce que j'ai fait moi d'ailleurs hein, donc il n'y a pas à être à rougir de ça. Mais moi j'aime bien l'idée de me retrouver dans 50 ans avec Laurence à mes côtés. Ça, j'aime bien cette idée-là. Et là aussi, je voudrais partager avec vous un mentor que j'ai dans ma vie, quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Il s'appelle Joël De René, quelqu'un qui est connu. C'est lui qui a intégré le surf en France dans les années 60. Il a gagné 3 fois le championnat de France de surf à ces années-là. C'est aussi quelqu'un qui est biologiste, reconnu internationalement et qui parle d'épigénétique, qui a écrit de nombreux livres là-dessus. Entre autres, et Joël, en fait, moi, pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui m'éblouit, alors de par sa personnalité, c'est quelqu'un d'éblouissant, mais ce qui est fabuleux quand on est avec lui, c'est qu'on le voit, lui et sa femme, ils ont 60 ans de vie commune, et tu les vois se regarder, c'est comme si c'était le premier jour, et ça, je trouve ça, mais touchant, je trouve ça, mais d'une beauté, et là, ça te réconcilie avec la possibilité de faire ta vie avec une personne et d'être heureux, et que chaque jour qui passe, soit un jour d'émerveillement, quoi, parce que on a besoin d'être ébloui, je pense, dans notre monde d'aujourd'hui. On a besoin de changement, on a besoin d'être étonné, on a besoin de nouveautés, ouais, mais on peut le faire aussi avec des personnes, cette notion de fidélité, avec des gens qui ont confiance en nous, et vice versa.
Ouais, c'est vrai. Bah écoute, tu me donnes beaucoup de force là, tu vois, et beaucoup de force et de courage d'ailleurs, parce que t'as mis des mots sur quelque chose qu'effectivement j'étais en train de beaucoup vivre en ce moment. Tu vois, on est tous tentés effectivement de vite tourner la page et de passer à quelque chose d'autre. Et je pense que alors des fois on se trompe, des fois on choisit la mauvaise personne, et dans ce cas-là, effectivement l'envie de découvrir quelqu'un d'autre est complètement justifiée, tu vois. Mais quand on sait que c'est la bonne personne, je pense qu'il faut faire preuve de résilience et essayer de créer un peu soi-même son histoire, tu vois, par rapport à ça. Et donc ça m'inspire beaucoup, tu vois. Et en fait, tu vois, quand tu disais, moi je me vois très bien dans 20 ans, 30 ans encore avec ma partenaire. Mais je trouve ça donne tellement d'apaisement, tu vois, et de sérénité, parce que ça te donne une liberté en fait de faire plein de choses à côté. Certes, tu vois, certains vont y voir l'emprisonnement, mais en fait à côté, ça te donne une base solide et un socle tellement fort que tu peux, je pense que tu peux réaliser des projets encore plus fous, quoi.
Je vais te partager un truc avec toi et avec tout le monde, une anecdote en fait, parce qu'à la fin de l'Enduroman, quand je suis arrivé, j'ai battu le record, donc c'est à Paris, aux Champs-Élysées, et donc c'était en juin 2016, et il y a une journaliste qui interviewe Laurence. La journaliste demande à Laurence, mais comment vous faites pour supporter ça, quoi? Faut être forte comme femme pour que votre mari, il travaille, il s'entraîne 20 heures par semaine, en gros, vous le voyez jamais, mais c'est quoi votre recette, quoi? Et là, Laurence, elle a cette phrase magique, elle dit, vous savez quoi? Je préfère le voir faire ce qu'il fait plutôt que d'être pilier de comptoir en train de boire des bières tous les soirs. Elle a cette phrase, elle dit une spontanéité, vraiment, j'adore, quoi. Et ça fait rire tout le monde, quoi. Donc, en fait, les gens posent des questions souvent qui sont un petit peu pesantes. Et toi-même, tu as posé des questions qui sont pesantes et lourdes. Et c'est normal et c'est légitime parce que ce sont des choses importantes. Et on parle de valeur. Mais Laurence, elle a eu cette capacité finalement à relativiser et à rendre les choses légères là où parfois c'est un peu pesant et lourd, quoi. Donc, moi, oui, j'ai un divorce derrière moi. Elle me dit, bah, et alors, quoi. Voilà, t'as divorcé, c'est la vie et on va faire un mélodrame non plus, quoi. Tu vis dans l'instant présent, tu as des projets avec moi, et ben peut-être que moi je sais comment t'es aujourd'hui, je t'ai choisi comme ça, et je vais pas te demander de changer de main. Et c'est un peu ça la problématique qu'on peut évoquer des fois, c'est que finalement on attend de l'autre qu'il soit l'image qu'on attend de lui. Un bon mari, je veux marier avec quelqu'un, je veux qu'il devienne un bon mari, puis après un bon papa, etc. Évidemment qu'on veut le devenir quand on est papa, mais pas de là à renier aussi ce qu'on a dans nos tripes et ce qui fait qu'on va rechercher l'épanouissement et de l'envie et du désir. Donc Laurence, elle m'a dit, voilà, je t'ai choisi en tant que sportif, je vais pas te demander maintenant d'être au foyer, ne plus rien faire, ce serait contre-intuitif et j'aurais tout à perdre à faire ça. Donc voilà, faut se rendre compte que finalement dans un couple, pour ce que tu disais, on attend souvent beaucoup de l'autre, mais on est souvent le miroir de l'autre. Hein. Quand on attend beaucoup de l'autre, c'est qu'on attend beaucoup de soi finalement. Donc, si on est capable de se regarder soi-même et de se réinventer, voilà, je pense qu'on a plus à gagner à se regarder soi-même et puis finalement, avant d'attendre des choses de l'autre, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, y a tellement de choses à dire, hein, de toute façon, sur l'amour et sur l'équilibre d'une relation amoureuse. Enfin, en tout cas, voilà, je suis content d'avoir évoqué ce sujet avec toi parce que j'ai été très touché effectivement par l'histoire que tu racontes dans ton TED et alors elle est préparée, on sent qu'elle est vraiment vraiment authentique et tu vois, moi je vois tellement de gens autour de moi, tu vois, qui sont pas hyper heureux et qui effectivement sont pas à leur place dans leur couple et je leur dis mais ouais, c'est normal de pas être heureux et de pas être épanoui si t'essayes pas de donner 100% de ton énergie avec la personne avec qui tu vis au quotidien, qui partage tes nuits, avec qui tu te lèves et c'est tellement important de pouvoir avoir cette sérénité.
Ça me fait penser à Stéphane Brognard dans un podcast qu'il a fait avec toi. Moi, j'ai bu ses paroles comme du tilet, comme tu dis. Voilà, les sportifs aujourd'hui, ils courent, ils savent pas après quoi, et puis ils sont jamais contents. Bah, c'est un peu comme dans un couple, c'est pareil. On veut toujours l'idéal, on veut toujours le mieux, alors qu'en fait, on sait pas savourer l'instant présent, des moments qu'on passe avec les personnes, comme dans le sport. Finalement, voilà, c'est du jour où il s'est rendu compte qu'il savourait l'instant présent, la montagne, qui s'est révélé et qu'il a fait un top 10. Salut TMB, sans se mettre la pression du lendemain. Nous, en fait, on est toujours dans des projections. C'est notre problème à tous, hein, que ce soit dans le sport, pour amener ça à notre cause du jour. Hein. On est des extraterriens, on est quand même des terriens et des êtres humains. Et on a toujours cette notion de dépassement, sortir sa zone de confort, mais ça nous projette un petit peu dans un avenir. Et du coup, on oublie l'instant présent. Donc on peut très bien avoir des projets, savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais en même temps, savourer les moments qu'on est en train de passer, que ce soit dans l'exercice de son activité physique, dans l'exercice relationnel, sensuel, sensoriel. Et pour ça, ouais, c'est vrai qu'on a un spectre absolument génial dans la relation amoureuse, quoi. Donc parce que c'est ce qui va décupler les sens, décupler les émotions, et c'est ces mêmes sens et ces mêmes émotions dont on va pouvoir se servir dans la pratique de notre sport. Donc c'est génial, quoi.
Ouais. Et toi, tu te dis que c'est des émotions que tu as réussi à transposer dans le sport. C'est je le visualise pas très bien, hein. Tu
peux me donner un exemple? Si, au bout du truc, parce qu'en fait, moi, l'enduroman, cette épreuve, je m'y inscris à l'âge de 41 ans. Oui, je l'ai fini à 42 ans. Et en fait, je transpose dans cette préparation d'un an tout mon savoir-faire d'entrepreneur, comme tu disais tout à l'heure, de la préparation, de l'organisation. Ça ne s'improvise pas. Donc, tu vas mettre de l'entraînement, tu vas te nourrir comme il faut, tu vas dormir comme il faut, récupérer, etc. Donc, tout ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise, je l'introduis dans ma préparation de cette épreuve, y compris pour la logistique, la recherche de sponsors, etc. Donc, tu mets des processus, de la méthodologie. Et après, tu construis, entre guillemets, ton équipe, dont l'équipe affective est celle qui va pouvoir te porter pendant l'effort, quoi. Parce que pendant ton effort, t'as besoin de remonter ton capital confiance, et ça passe par des émotions. C'est les émotions qui nous transcendent. Donc là, tu y mets effectivement la partie émotionnelle dans cette épreuve-là. Comme un sportif, peu importe qu'on fasse du long ou du court, Usain Bolt, quand il fait son 100 mètres, bah forcément, il y a tout un art, toute une technique. Mais derrière ça aussi, il y a tout un tas de points sensoriels sur lesquels il a travaillé avec son coach mental pour décupler tous ses sens, décupler tout son côté sensationnel qui fait qu'il est en pleine possession de tous ses moyens physiques, physiologiques, sensationnels. Et comme on pourrait prendre un golfeur, quoi. Le golfeur, s'il est juste sur son alignement tête-corps et qu'il oublie l'environnement et toutes ses sensations qui le connectent à l'environnement, en fonction du vent, de la température, etc., forcément, il va pas avoir le même impact sur la balle quand il va la taper. Et voilà, donc c'est l'intelligence du sportif aujourd'hui, pour moi, elle est sur la capacité à comprendre, à se muer de l'intérieur, mais pour être encore plus performant par rapport à son environnement à l'extérieur. Et ça fait appel au sens.
Ok, je vois très bien, génial. Merci en tout cas pour cette précision. J'avais vraiment envie d'aborder justement un petit peu avec toi cette année de préparation avant un exploit comme l'Enduroman. Je vois plutôt bien, tu vois, comment est-ce qu'on peut préparer peut-être, tu vois, un marathon ou à la limite un Ironman, tu vois. Mais en tout cas sur la partie vraiment de l'entraînement, c'est des choses qui sont connues, que tu peux trouver facilement sur internet, dans les magazines, et voilà, c'est très accessible. Mais ce qui m'intéresse un petit peu, c'est peut-être plus sur justement ce qu'on voit pas sur un effort un petit peu plus long, et peut-être sur la partie logistique aussi. Tu vois, il me semble que tu as constitué une équipe, vous partez en minivan. Il me semblait aussi que pour traverser la Manche à la nage, il faut une autorisation aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette année et les différentes péripéties que tu as vécues?
Alors là, j'y passerai des heures. C'est pour ça que Laurence m'a dit à la fin de l'épreuve, écris ton bouquin là-dessus, parce que déjà d'une, c'est pour remercier ceux qui t'ont aidé, tu viens de le dire, il y avait toute une équipe. Donc le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, c'est d'écrire ton histoire, donc je l'ai écrite pour ça. Et une deuxième motivation, elle venait plus de l'intérieur, c'est justement répondre à ta question, c'est quels sont tous les paramètres que j'ai mis en œuvre en termes de méthodologie pour arriver à ce résultat-là. Et là, on peut tous avoir l'image d'un arbre avec les ramifications, les racines, tout le système racinaire qui fait que j'ai mon vécu, j'ai mes forces, j'ai tout ce que j'ai emmagasiné comme compétences. Après, il y a la partie de l'arbre avec toutes ses feuilles, ses branches, etc. Et là, moi, pour le coup, vous imaginez que pour cette épreuve-là, il y a plein de branches. Parmi elles, il y a une branche sur tout ce qui va être l'activité physique, la préparation physique, évidemment. Alors là-dedans, il y a plein de ramifications aussi, les entraînements de natation, les entraînements vélo, les entraînements de pied, la PPG, etc., etc. Donc, plein de ramifications sur cette branche-là. Après, il y a une autre branche qui va être la nutrition. Comment se nourrir? Et là, tu l'as dit, moi, c'est l'inconnu, parce que autant me nourrir sur un marathon en Ironman, je sais. Me nourrir sur 60 heures d'effort, je sais pas tout, quoi. Et encore, en découvrant plein de choses sur la nutrition endurance avec Grégoire Millet, avec Anthony Bertou, je redécouvre complètement le spectre que j'avais imaginé, qui est complètement faux d'ailleurs, je faisais que des conneries avant, sur des épreuves que je pourrais faire plus courte type Ironman. Après, une autre ramification qui va être le sommeil. Parce que comment je vais récupérer de 140 km de course à pied pour traverser la Manche à la nage? C'est quoi les techniques pour récupérer? Donc les techniques de méditation, de récupération rapide, à quel moment je vais mettre le sommeil? Donc là, je vais voir les experts en sommeil, François Duforez, qu'on m'avait conseillé, qui est un mec absolument génial, un médecin, c'est le spécialiste en Europe sur tout ce qui est sommeil. Et c'est pareil, c'est devenu un pote aujourd'hui, on était encore en conférence la semaine dernière. Donc là, je découvre énormément de choses, la cohérence cardiaque, plein de trucs comme ça, la sophrologie, ça m'a passionné cette branche-là, en fait, c'est celle qui m'a le plus passionné, la récupération, comment mieux gérer son stress, etc., comment remonter sa dose d'énergie. Donc ça, c'est notre ramification. Après, tu l'as dit, il y a la logistique. Alors là, c'était énorme, c'est plein de ramifications, je vais pas tout vous expliquer, parce que comment gérer tout le matériel, la nourriture pour l'équipe, le staff, chercher les finances, chercher tout ce qui est notion de budget, etc., organiser une soirée pour avoir les finances, faire une conférence de presse, toute cette logistique là et en gros, je vais pas tout les faire, mais en gros, moi, j'avais une vision d'un arbre, quoi. C'est ce qu'on appelle la mind map, hein. Une mind map, c'est l'arbre de ma pensée, et avec tout ce que j'ai pu acquérir comme savoir, tout ce que j'ai à développer, et pour y voir clair, moi, un truc à partager avec tout le monde, faut pas avoir une notion du temps linéaire. Parce qu'en fait, j'aime bien le partager à l'écran, ça, en général, parce que nous, on a une notion du temps qui est avec un temps de démarrage et un temps d'arrivée, quoi. Là. Et puis, c'est linéaire. Ça, c'est la vision occidentale qu'on a du temps. Sauf que le temps, c'est une notion qui est circulaire. Et à partir du moment, alors vous pourrez regarder sur Google, taper temps linéaire, temps circulaire, vous verrez des schémas, ça joue temps circulaire, temps linéaire, et quand vous voyez le temps de façon linéaire, c'est-à-dire sur une vision un peu plus orientale, eh bien en fait, vous vous rendez compte que finalement, quand vous disiez avant j'ai pas le temps d'eux et j'aurai jamais le temps d'eux, c'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. Il faut revoir un petit peu sa façon de regarder le monde, sa façon d'organiser sa vie, j'ai envie de dire, plutôt que son temps. À partir du moment où on sait ce qu'on a à faire, le temps n'est plus une problématique, ça reste un outil. Il y a plein de gens qui sont prisonniers du temps. Moi, je dis pas que j'en suis le maître, mais en tout cas, j'essaie de l'optimiser avec une vision. Je pense que tu veux venir sur le sujet aussi parce que tu parlais tout à l'heure de respiration. Mais si on fait des pauses, si on prend un peu plus de temps pour la récupération, bizarrement, on est plus productif.
Ok. Tu peux expliquer un tout petit peu le concept de temps linéaire, temps circulaire? Parce que je ne connais pas du tout, là, tu m'apprends quelque chose, et ça m'intéresse beaucoup.
Alors ça, je le partage avec mes étudiants que je forme sur la gestion du stress, gestion du temps, et ma notion circulaire du temps, franchement, allez sur Google, quoi. Allez sur Google, tapez temps linéaire, temps circulaire, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une vision de l'esprit. C'est juste une vision de l'esprit. C'est une fausse croyance, c'est des fausses croyances. Donc en fait, à partir du moment où tu as compris on pourrait parler du temps quantique aussi. Hein. Là, on est encore on passe le temps cycle, la notion de temps cyclique. Mais le quantique, en fait, si vous lisez du Tony Hawkins, qui a la théorie des trous noirs, vous dites, mais en fait, le temps, si à un moment donné, le temps pouvait s'arrêter, il y a différentes façons d'appréhender le temps. Donc, le temps cyclique, en deux mots, c'est respecter les rythmes de la nature et de l'humain. Chose à retenir, c'est assez basique. C'est l'homme s'inscrit dans un rythme qui est celui de la nature. On a longtemps cru que c'était nous qui allons, enfin l'homme avait une emprise sur la nature. On a fait des choses absolument géniales depuis le monde de l'industrie, mais on se rend compte aujourd'hui, on en a eu encore des circonstances pénibles ces derniers temps, mais c'est la nature nous a rappelé à l'ordre parce que nous on n'était pas respectueux de certains nombres de choses et on n'a pas de prise là-dessus. Et on a pu voir que très vite d'ailleurs, pendant le Covid, la nature a pris très, très vite son espace. Moi j'ai des endroits, j'entendais pas les oiseaux chanter d'un seul coup en deux semaines. Entend les oiseaux chanter, c'est quand même miraculeux. Par contre, on entend dire tout le monde, ça y est, on pourra plus revenir en arrière sur la nature, etc. Enfin, l'écologie. Bon, en fait, c'est juste qu'on n'a pas compris ce côté. La nature elle nous a pas attendu pour que le monde existe. Et on a beau faire toutes les conneries du monde, le pire ennemi de l'homme, on lui fera jamais rien. La nature, c'est l'homme c'est à l'homme qu'on fait mal. Donc le temps ne se perd pas. C'est un éternel retour de toute façon. Donc dans la gestion du temps, je crois, plein de choses, fabuleux.
Ok, ça marche. Bon, je crois avoir saisi un petit peu le concept et en tout cas, enfin, moi j'aime bien aussi dans le temps de voir, en tout cas au niveau énergie ou un petit peu au niveau énergétique et aussi au niveau de un peu de la productivité, de voir que il y a certaines phases de la journée ou certaines phases même dans l'année où on est beaucoup plus productif, beaucoup plus réceptif.
Voilà.
Et on peut mieux s'organiser pour justement être plus productif et plus créatif dans certaines périodes plus que d'autres et d'autres les allouer au repos, quoi.
Ouais.
Donc, moi, j'allais faire mes petites recherches. Je t'embête pas plus sur le sujet.
Non, mais c'est pour partager avec tout le monde. Je vais pas aller trop loin là-dedans, mais vous tapez sur Google ou peu importe le moteur de recherche d'ailleurs, cycle circadien. Voilà. Ou cycle, qu'est-ce que c'est ça, les cycles circadiens ou les chronocycles intérieurs, voilà. On a une horloge interne, il y a des moments où on est performant, d'autres moments où on l'est moins. Quand on sait ça, on va accepter qu'il y a des moments où on va mettre de l'énergie sur des temps avec un maximum de résultats. Il y a d'autres moments, ça sert à rien, on gaspille son temps, on gaspille son énergie parce qu'il n'y aura pas de résultats. On n'est pas assez concentré, le cerveau a besoin de se relâcher.
Mmh. Ok, hyper clair. Et si on peut revenir un petit peu à la course, justement, à l'enduroman, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la ligne de départ, comment est-ce que ça se passe, qui est avec toi, comment est-ce que tu t'es préparé, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là?
Là, j'invite tous les auditeurs, et je t'invite aussi, Barthélémy, à fermer les yeux.
Mmh.
Voilà, on va prendre le temps, fermer tous les yeux et puis commencer à faire une profonde inspiration. Et puis une longue expiration. une deuxième, allez, on prend le temps, c'est chiant pour tout le monde, non, non, ça fait du bien. Longue inspiration et longue expiration. Et qu'est-ce qui se passe? On sent le corps qui se détend. Et si vous faites ça trois fois de suite, vous commencez à pouvoir visualiser à l'intérieur un certain nombre de choses. Alors, soit votre propre visualisation à vous, personnelle, soit celle que je vous suggère, puisque Barthélémy pose la question, qu'est-ce que je ressens lorsque je suis à Londres? Donc, imaginez, vous êtes à Londres, et vous connaissez certains d'entre vous cette ville, avec Marble Arch. Donc, voilà, cette arche-là, il est 23h30. Et Cyril, voilà, il est là, entouré de toute son équipe. Il y a 5 personnes, dont Laurence, sa femme. Il y a ses meilleurs potes qui sont là aussi. Il y a Edgar, l'organisateur, qui est là avec son t-shirt Enduroman, et est en train de se dire, mais c'est qui ce Frenchie là qui est sorti de nulle part, qui est venu avec une équipe qui n'ont pas l'air très sérieux parce qu'il se marre tout le temps. Mais ils ont l'air assez confiants. Mais je pense, lui, il se dit quoi? Il se dit, je pense qu'il mesure pas vraiment le truc, quoi. Il se rend vraiment pas compte que ça va être très, très, très dur. Sauf que moi, je m'étais bien préparé. Vous l'avez compris avec tout ce que j'ai pu vous partager avec vous tout à l'heure. Et là, ce qui se passe, toute l'équipe est fun, tout le monde se marre. Mais moi, je suis à la fois dans le sourire, mais intérieurement, je suis extrêmement confiant, pour pas dire concentré. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, j'ai mon préparateur mental, Philippe Leclerc, qui m'a conditionné à la réussite de cette épreuve. Comment il a fait? Pendant 6 mois, on a fait des séances de sophro, on a fait des séances de préparation mentale, d'induction mentale, pour imaginer cette épreuve. Et donc moi, quand je suis là, à Londres, je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir parce que je suis tellement préparé, j'ai tellement visualisé cette épreuve que il y a rien qui peut m'arrêter. Alors pour autant, les Anglais, ils n'ont pas l'impression que c'est ce qui va se passer, mais la course à pied se passe super bien. Je suis assez un peu dur sur la fin, mais globalement la course à pied se passe bien. Je cours à peu près à 9 km/h, 9-10, et puis je m'arrête toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je m'arrête pour m'hydrater, manger un petit truc. Donc je fractionne vraiment toutes mes pauses, je fractionne toutes mes prises nutritionnelles. Après, je fais des pauses un peu plus importantes pendant toutes les heures 30, où là je vais m'arrêter 10 minutes, toutes les 3 heures je crois. Mémoire. Donc en gros, j'avais toute une stratégie sur la course à pied pour pouvoir m'auto-régénérer pendant toute cette épreuve de la course à pied. Et ce qui fait que j'arrive 18 heures après à faire les 140 km devant la... Bah voilà, cette fois-ci, j'ai passé Folkestone et j'arrive à Douvres avec la Manche face à moi. Et il est quoi? Il est 19h, 18h, un truc dans le genre. Et là, je vais partir nager à 23h, enfin 22h, 30 heures anglaise.
D'accord, ok. Et durant tes petites pauses, tu t'assois, tu fermes les yeux. Comment est-ce que tu fais pour te régénérer un maximum?
Alors toutes les 10 minutes, c'est une pause où je marche. Je cours 9 minutes, je m'arrête. Enfin, je m'arrête pas en fait. Je marche pendant 1 minute, histoire de bien assimiler tout ce que je vais prendre à boire, à manger, puis me relaxer, reprendre mes équilibres. Et quand je m'arrête un peu plus longtemps, effectivement, le siège du pêcheur, vous savez, le truc pliant là, je m'installe dedans, et puis effectivement, comme tu peux le dire, je ferme les yeux, je fais des profondes respirations, je me mets en cohérence cardiaque, et je me fais ce que j'appelle un scan corporel, pour vraiment identifier toutes les parties de mon corps, au niveau musculaire, tissulaire, osseux, etc., et trouver ressentir un maximum de relâchement dans toutes les parties de mon corps. Et j'avais prévu des arrêts un petit peu plus longs, plus longs pour le coup, où là je m'assieds, je mangeais un peu plus, et j'avais mon ostéopathe qui m'accompagnait, qui me faisait des rééquilibrages. Et ça, j'en ai fait trois pauses comme ça pendant la course à pied, tous les marathons en fait.
D'accord, ok. Et donc tu arrives à Douvres, tu vois la Manche. Je sais pas, enfin il est 23h, donc tu dois pas voir la côte française de l'autre côté, j'imagine.
Non, je la vois quand j'arrive à Douvres. Là, je la vois puisqu'il est 18h, mais par contre, au moment de partir pour nager, là, il fait nuit.
Ouais. Ok, ok. Et tu fais quoi du coup pendant ces 4-5 heures avant de partir? Tu dors?
Pareil, j'avais mis une stratégie en place. C'était 6 heures d'arrêt maxi, donc pendant les 6 heures, rester 5 heures. Effectivement, j'ai une partie nutritionnelle, une partie ostéo pour me rééquilibrer. Et puis une fois que j'ai fait tout, puis la logistique, aller d'un point A à un point B, etc., il y a des choses qui se passent, quoi. Moi, j'avais prévu 1h30 de sommeil. Donc là, je pars pendant 1h30 de sommeil.
Ok. Et là, pareil, c'est quelque chose que j'avais préparé. Ok, génial. Et c'est pas un choix un peu compliqué de démarrer la natation à 23h en pleine nuit, sûrement au moment où l'eau est la plus froide? Pourquoi? C'est un peu imposé par le rythme de la course, mais comment est-ce qu'on gère ça?
Tu choisis pas ça. En fait, la traversée de la Manche à la nage, c'est le pilote qui choisit du moment à laquelle tu vas faire la traversée, parce que ça dépend des facteurs, les marées, les coefficients de marée. Ça dépend aussi des vents, puis après des conditions climatiques. Donc en gros, le pilote dit aux nageurs, enfin pour ceux qui traversent la Manche à la nage sans avoir couru avant sur l'enduromane par exemple, voilà, donc part demain à telle heure, et le nageur doit être prêt à ce moment-là. Donc là, ils font pareil pour l'enduromane. Ils disent, on doit partir. On va partir. Moi, c'était mardi soir 23h30. Donc, Edgar, l'organisateur, m'appelle le mardi matin. Mardi matin, en me disant, faut que tu sois, puisque tu veux faire 24 heures avant ton départ, faut que tu sois là ce soir à 22h30, heure anglaise, mardi 22h30, pour pouvoir nager à 23h30 le lendemain. Sachant que le chrono s'arrête pas. Hein, c'est une épreuve qui se fait non-stop. Le chronomètre, à partir du moment où il l'enclenche à Marble Arch à Londres, il n'arrête plus jusqu'à l'arrivée à l'Arc de Triomphe à Paris.
D'accord, ok. Donc en fait, le départ de la course à pied est calqué sur tes objectifs de temps en fonction de ton heure d'arrivée au port et à quelle heure démarre le bateau, quoi.
Ouais.
Si je comprends bien.
Ouais, c'est ça. Et puis, comme je te le disais moi au tout début, j'aime pas trop la compétition contre les autres. Sauf que là, j'allais battre quand même contre un record, parce que moi, je voulais faire cette épreuve, je voulais être le premier Français à la terminer. Ça, c'était mon rêve à moi, mon projet. Et mon coach mental m'avait dit, Cyril, moi, je vais t'aider, je vais t'accompagner dans ce projet-là. Par contre, t'as pas besoin de moi. Ah bon? Mais si, j'ai besoin de toi parce que je veux le finir. Voilà. Moi, je t'accompagne si on bat le record. Ah, ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il a confiance en moi pour battre ce record. Sauf que sur le papier, moi, je regarde l'Australien qui avait le record. Il est meilleur nageur que moi et de loin. Il est meilleur coureur que moi. À la limite, je suis meilleur cycliste que lui. Donc, en gros, j'ai un mec qui est plus fort que moi. Donc, je vois pas comment je peux le battre. En fait, c'est là que je raisonne en me disant, s'il y a d'autres paramètres de la performance, comme la nutrition, la récupération, etc., peut-être que je serais plus fort que lui là-dessus, sur l'intelligence collective pour pouvoir réussir cette épreuve. Donc, je me suis entouré des personnes et c'est sur la récupération. J'avais donc 2 fois 6 heures de récupération entre les 3 épreuves, 6 heures après avoir couru et 6 heures après avoir nagé. Alors ça s'est transformé un petit peu moins. Et quand j'ai dit ma stratégie à l'anglais, le dimanche avant de partir à la course, là, il me dit, Cyril, cette semaine, on y est. Combien de temps tu prévois entre la course à pied et le départ de la nage? Ça veut dire combien de temps tu vas courir et combien de temps tu vas récupérer? Je lui explique 24 heures. Il me dit, donc tu vas courir en 14-15 heures. J'ai dit non, je lui dis en 18 heures et je vais récupérer 6 heures. Il me dit, c'est pas possible. Là, l'anglais me dit, c'est pas possible. Il me dit, récupérer 6 heures entre ta course à pied et la nage, c'est pas possible, ça s'est jamais fait. Donc là, j'ai 2 réactions. Soit je dis, ok, je revois ma copie. Soit je dis, non, j'ai plus le choix. Le départ, moi, je me suis préparé pendant 1 an selon cette stratégie. Je vais pas voir ma stratégie 2 jours avant le départ, même 1 jour. Ouais. Donc je dis à l'anglais, je fais de la négociation. Je négocie avec lui. Je m'énerve pas, je me fâche pas. Je négocie avec un anglais. Et puis, en fait, les anglais sont très respectueux tant que tu les prends, tant que tu les écoutes et que tu es très respectueux avec eux. Par contre, si on est un peu arrogant, si on fait au forceps, ils aiment pas du tout. Donc, Edgar, je suis dans une vraie négociation, je prends mon temps, je me calme, je m'énerve pas. Il me dit ok, vas-y, tu fais, puis on verra bien. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé en Angleterre, il m'a pris un peu pour un kéké, parce qu'il me disait, le gars, il va faire un truc, 6 heures de récupération entre la course à pied et la nage, c'est pas possible, quoi. Quand il a vu que je l'ai fait, ça a cassé un peu les codes. Et c'est pour ça que les athlètes qui l'ont fait derrière moi, le record a été battu l'année dernière, puisque l'Indien qui a battu le record a eu des récupérations encore plus courtes que les miennes. Donc comme quoi, rien n'est impossible, tout est possible.
D'accord, ok. Génial en tout cas. Comment ça se passe 14 heures de natation, tu vois? Moi je crois que le maximum que j'ai dû nager, ça devait être 1h10 d'affilée, tu vois, c'était pour 1h10, 1h15, c'était pour préparer les 3 km suite d'un Ironman et encore je pense que j'avais nagé un petit peu moins. 14-15 heures d'affilée, mais enfin, tu dois avoir, tu dois avoir déjà la bouche complètement brûlée par le sel. Tu dois avoir les yeux aussi complètement bouffis. Enfin, comment est-ce que tu te sens tu as dit que tu voulais un moment arrêter. Pourquoi? C'était quoi les émotions que tu ressentais à ce moment-là? Et comment est-ce que tu te sens à l'arrivée? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 14 heures de natation?
Bon, en fait, l'idée de départ, quand même, moi, c'est de vivre une aventure. Je pars pas là-dedans. Le point de départ, le déclencheur, c'est je vais vivre une aventure. Je trouve que l'histoire est belle. Partir d'un point A pour arriver à un point B, c'est pas une boucle. Contrairement à la plupart des triathlons, c'est des boucles. Là, j'aime beaucoup l'idée d'aventure. Et puis, j'aime bien, en plus, l'idée de l'Everest de la nage. L'Everest de la nage, c'est la traversée de la Manche. Hein. Sauf que c'est bien connu dans le monde. C'est la plus dure traversée. Parce que, pas en distance, mais avec la difficulté des courants, les températures, elle est quand même fraîche. Pour plein de raisons, c'est une des traversées les plus dures au monde. Et moi, là que je me dis j'ai 40 balais, je pense qu'avoir acquis un certain nombre de compétences physiologiques et puis mentales pour pouvoir me permettre de vivre cette aventure-là. Comme dit mon entraîneur, Laurent Chopin, il me dit c'est pas une épreuve sportive, c'est une aventure que tu es en train de faire. Et je suis parfaitement d'accord avec cette idée-là. Donc je me compare pas à des triathlètes, je me compare pas à des athlètes, c'est une aventure. Je suis plus en mode Mike Horn, quoi, ou Nicolas Vanier qui prépare une longue expédition plutôt qu'un triathlète, même si j'ai mon bagage de triathlète derrière. Et voilà, donc ça part comme ça. Donc à n'importe quel moment, je me dis le chrono, même si je veux bien l'idée de battre le record du monde, mais ça c'est juste une évidence pour mon coach mental qui m'a préparé là-dessus. Donc c'est technique en fait. C'est même pas un rêve, c'est pas une envie. Moi, je veux juste vivre une aventure. Et donc il y a l'équipe qui est avec moi, qui m'envoie plein de sa dose d'énergie, qui se marre, qui est contente, qui est heureuse, qui s'inquiète par moment. Et donc ouais, il y a plein d'émotions partagées avec eux. Et pendant la nage. Non, il y a plus d'émotion en fait. Hein. Moi, je suis en mode robot. Hein. Comme dit souvent Cédric Fleurton, quand il a gagné la Saint-Élion l'année dernière, il dit à un moment donné, tu débranches le cerveau. Et puis c'est là que la magie s'opère en fait. Quand tu débranches le cerveau, il y a plus la notion du temps, il y a plus la notion de la performance. Tu es dans l'instant présent, tu fais ce que tu as à faire. Et puis voilà, ils viennent que pourra. Hein. Et comme tu as été préparé de toute façon. Voilà. Et après, tu n'as qu'une chose à faire, c'est écouter ce qui se passe autour de toi, écouter un petit peu l'environnement, et puis prendre les doses d'énergie là où elles sont. Et moi, c'était Laurent, c'était les copains, et c'est eux qui à chaque fois me donnaient cette dose d'énergie. J'ai une belle anecdote à raconter parce qu'en fait, l'arbitre anglais, alors pas Edgar l'organisateur, mais l'arbitre qui me suivait et qui était vraiment très très dur, quoi. Dès que tu faisais le moindre écart, il te mettait le carton jaune, tu vois. Donc il me dit la prochaine fois, t'es disqualifié si tu continues à faire des genres de choses. Par exemple, à vélo, t'as pas le droit tu dois prendre des stops. Feu rouge, tu t'arrêtes. À la nage, t'as pas le droit de tenir le bateau, c'est interdit. Ni à la perche. Moi, à un moment donné, j'étais crevé, je tiens la perche et tout pour m'alimenter. Donc, en même temps, j'en profite pour la tenir un peu. Il me dit, tu refais ça, t'es disqualifié. Bon, ok, je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait deux. Mais l'anecdote que m'a donné donc Dan, le référé, il a écrit un truc là-dessus. Il dit, Cyril, c'est incroyable. J'ai pas compris. Pendant toute l'épreuve, il s'arrêtait tout le temps. J'ai pas compris. Il s'arrêtait tout le temps pour moi. Du coup, il perdait du temps. Et à la fin, c'est qu'à la fin qu'il écrit, j'ai compris. Parce qu'à chaque fois qu'il s'arrêtait, il reprenait de l'énergie. Et du coup, c'est un super enseignement pour tout le monde. Moi, j'apprends ça à tous les étudiants, à toutes les conférences que je fais, aux entrepreneurs. C'est plus vous faites des pauses, ça peut être des pauses longues, mais des pauses courtes, plus vous reprenez de l'énergie et plus vous êtes apte à reprendre de nouvelles activités. C'est François Dufaurès qui m'a appris ça, le médecin du sommeil. Il me dit, dans la vie, dans la journée, il faut savoir mettre des sas. À chaque fois que tu as fini une opération, une tâche, une mission, une exécutée, une tâche quotidienne, avant de reprendre une autre, tu mets un sas de décompression. Tu décompresses, tu remets l'énergie au bon endroit et tu peux redémarrer une nouvelle activité. Et le problème aujourd'hui qu'on peut avoir nous tous, et je pense d'ailleurs dans le sport c'est pareil, en fait on n'a pas ces sas-là. Alors dans le triathlon, t'es obligé, t'as des sas, c'est la transition. C'est pas un hasard si je suis tombé dans ce sport-là, c'est peut-être pour ces sas et ces transitions. Ça te permet de retrouver tes niveaux d'énergie, quoi. Et voilà, donc quand vous finissez votre boulot et vous allez chez vous, si vous mettez pas un sas, qu'est-ce qui se passe? Vous amenez vos affaires professionnelles à la famille et des enfants, ils le sentent, quoi. Papa, t'es là, mais t'es pas là. Et c'est le fameux film, les tuches, hein. T'es là, t'es pas là. Tu penses à autre chose parce que t'as pas mis de sas. Plus tu mets des sas entre tes différentes actions, plus tu vas être connecté avec ce que tu as à faire et plus tu le feras bien et plus tu auras de résultats, plus tu seras productif.
Ok. Écoute, c'est un super conseil. Ça, c'est vraiment un super conseil de coach et de mettre vraiment des sas et de mettre des pauses. Écoute, j'y ai pas pensé. En tout cas, je l'avais pas verbalisé comme ça, mais c'est vraiment, vraiment super bien. Et effectivement, après le boulot, prendre 5 minutes pour soi pour méditer. Moi, j'essaye de le faire à ce moment-là. Tu vois, j'arrive chez moi. La première chose que je fais, je parle pas à ma femme. Je vais me poser tout seul dans une pièce et je médite 5 minutes. Ouais. Et effectivement, je pense que ça permet un peu d'évacuer. Donc, mais effectivement, si je peux le faire à d'autres moments, ça serait une super bonne idée. En tout cas, super, super conseil. Est-ce que t'as aussi d'autres petites astuces ou d'autres petits exercices, parce qu'aujourd'hui, voilà, t'as fait de la préparation mentale une de tes expertises et même ta profession, parce que tu effectivement tu as des étudiants. Est-ce que tu peux, tu as déjà donné énormément de valeur, tu vois, sur le scan corporel, tu as parlé de cohérence cardiaque aussi, tu as parlé de temps circulaire, et là tu viens de parler de ces SAS. Est-ce que aller pour la route, est-ce que tu aurais un dernier petit conseil ou petit exercice que les auditeurs pourraient refaire facilement et qui a un effet immédiat sur le bien-être, sur le bonheur ou même la performance?
Bah, moi, il me vient à l'esprit, j'en ai tellement, mais là, compte tenu de la discussion qu'on est en train d'avoir, il y a une phrase, moi, qui m'a vachement interpellé, que m'a donné mon coach mental quand je préparais mon épreuve. Il sentait que j'étais quelqu'un qui remplissait tout le temps l'agenda, quoi. Et là, à chaque fois que j'ai des moments de pause dans la journée, c'est pour moi, c'est à l'époque en tout cas, c'était pas des bons moments. C'était même des moments où je gaspillais mon énergie parce que tu vois, attendre les bouchons, ne n'avoir à rien faire en fait, bah, c'est contre-productif. Je vais pas pouvoir bien remplir ma journée, tu vois. Et il m'a dit, Cyril, attente égale détente. Ouais. Okay. C'est tout. Mais à chaque fois que tu as des opportunités dans ton quotidien où tu dois attendre, j'attends en salle de pause chez le médecin, j'attends, on n'aime pas ça, les gens n'aiment pas ça, ils s'énervent, j'attends en caisse, j'attends dans les bouchons, et les gens s'énervent. Et moi le premier, on a tous ce réflexe-là. On s'est programmé dans ces moments-là à s'agacer. En fait, il faut se reprogrammer. Donc en fait, tu te reprogrammes ton cerveau, attente égale détente. Et ça va mieux. Et tu as ton corps qui se relâche. Et là, tu dis, ben ouais, finalement, bah, ce qui s'est passé avec le Covid, confinement, eh ben, on va attendre, on va se calmer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont tous dit, putain, on se sent bien, ça a remis l'église au cœur du village, je vois plus clair dans ma vie, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux maintenant. Ben voilà, t'as une opportunité de te faire un petit peu ta retraite. Toi, on n'attend pas d'avoir 65 ans, 70 ans pour être en retraite. On peut très bien faire nos retraites spirituelles quand on nous l'impose. Bah voilà, il y a un moment où je suis dans les bouchons, allez hop, retraite spirituelle, voilà, je suis maître de la situation, j'accueille et j'en fais de cet événement, j'en fais une opportunité. Voilà, petit cadeau.
Ok, génial. Bah écoute, merci infiniment Cyril, c'était tu fais bien de effectivement remettre les pendules à l'heure et de nous aider à nous reprogrammer dans cette vie un petit peu intrépide, effectivement, pour laquelle on est programmé pour ne pas gaspiller notre temps, aller toujours plus vite, aller toujours plus fort et oublier qu'il faut souffler des fois, qu'il faut un peu se reposer et qu'il faut lever le pied. Donc, ok, super, génial. Je vais manquer de temps pour poser un petit peu plein de questions. J'avais encore plein de choses en tête, mais peut-être pour clôturer un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité aujourd'hui? Comment est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur quel sujet ils peuvent te contacter? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu accompagnais beaucoup de gens. Voilà, comment se compose ton quotidien aujourd'hui, plus côté professionnel, et qu'est-ce que tu peux apporter aux auditeurs qui veulent aller plus loin?
Bon, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Sur Internet, tu tapes Cyril Blanchard. Alors, il y a des rugbyman, il y a des artistes. On est quelques-uns en France, mais il y en a donc sur Google ou autre, Cyril Blanchard. Il y a mon site Internet. J'ai ma société, Bip Consulting aussi, qu'on peut trouver sur Internet. Sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram et compagnie, Facebook, on peut me retrouver. L'idée pour moi, c'est pas forcément de... Alors, je peux pas m'empêcher de partager, en fait. C'est plus fort que moi. Parfois, on me dit, ouais, t'en mets trop. Mon committee manager me dit, Cyril, il ne faut pas que t'en mettes de trop parce que sinon, tu cites la faut susciter intérêt, mais après, les gens, tu leur en donnes de trop. Bah ouais, mais c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. Donc en gros, vous pourrez constater sur les réseaux sociaux que je mets beaucoup beaucoup d'informations. J'échange avec beaucoup de gens. Je suis assez accessible, donc n'hésitez pas à le faire. Hein, ça, tu peux le relayer. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai pas peur en fait de mettre mon numéro de téléphone sur Internet. On va tout le temps te déranger. C'est absolument pas vrai. Vous pouvez mettre toutes vos coordonnées. Plus vous êtes transparent, le moins vous êtes dérangé. Donc ça, c'est bien. Et moi, pour le coup. On va trouver plein de matraces sur Internet, c'est assez facile à me trouver. Après, sur ce que je fais, ce que j'aime bien et qui fait que on prend un petit peu de temps tous les deux, c'est que j'ai une approche qui est assez systémique en fait de la performance. On est un tout, quoi, hein, donc tête, corps et environnement. Donc par rapport à ça, on peut être très performant dans sa préparation physique. On a un objectif, bah, on sait qu'on va s'entraîner, donc les plans d'entraînement, etc. Et on accorde énormément d'importance là-dessus. Je trouve qu'on néglige tous les à côté finalement. Alors le matériel, on en parle pas mal, et les gens surinvestissent en matériel, je trouve. Alors moi j'ai du matériel, hein, comme tous les triathlètes, mais je n'ai jamais surinvesti là-dedans. J'aime beaucoup Cédric Fleurton d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est assez épuré dans sa façon de vivre le sport, et il a c'est juste le meilleur, quoi, et toute catégorie confondue à 47 ans ça laisse plein d'espoir à plein de gens, hein, quand même. Et il est pas suréquipé, moi je le connais très bien, Cédric, en termes de nutrition. Voilà, les gens négligent beaucoup l'aspect nutritionnel. Quand on fait un Ambraman, quand on fait un tour du Mont Blanc, c'est des preuves, la moitié des abandons, c'est il y a des problèmes de digestion, donc la nutrition, c'est extrêmement important. La récupération, je pense qu'on l'a compris, je vais pas épigologuer plus là-dessus, mais là, voilà, le fait de mieux récupérer, de savoir mieux se régénérer de l'intérieur quand on est pendant l'épreuve sportive, mais aussi pendant la préparation, quand, peu importe ce qu'on va faire, qu'on fasse un marathon, un triathlon, un ultra, peu importe, finalement, faut savoir bien préparer et arriver avec un maximum de sommeil. Juste un petit truc, hein, à savoir, hein, on a souvent dire que ce qui est le sommeil perdu est perdu. Non, c'est pas vrai. Quand on a une dette de sommeil, on peut très vite capitaliser sur du sommeil. Donc plus on dort avant une épreuve, moins on sera fatigué pendant l'épreuve, même sur un UTMB. Il faut bien dormir pendant les 3-4 jours avant, on va emmagasiner du sommeil, ce qui fait qu'on sera beaucoup moins fatigué pendant la course. Ça, il y a plein de polémiques là-dessus, la vérité je vous la donne parce que je travaille là-dessus avec des spécialistes. Et le cinquième élément, et pas des moindres, pour sa préparation sportive et être performant, je pense que tu as compris, on a pas mal parlé de ça, c'est d'aller vers les autres, quoi. C'est plus on est entouré, et que ce soit pour faire la fête, passer des bons moments, prendre du plaisir, plus on sera performant. Pour moi, il n'y a pas de performance sans plaisir, parce qu'à un moment donné, c'est Stéphane Brunier qui le disait vachement bien, si tu prends pas plaisir dans ce que tu fais, de toute façon, tu n'auras pas des résultats, et voilà. Ou ça durera pas longtemps. Il a très bien dit, ça durera pas longtemps.
Ok. Écoute, merci infiniment, Cyril. J'encourage vraiment les auditeurs à te contacter si jamais ils ont envie de creuser tous ces sujets-là. Je pense que t'es vraiment quelqu'un de confiance, et t'as prouvé toute ton expertise et à quel point tu étais généreux dans tes coachings et dans tes prises de parole et de position. Donc, écoute, merci infiniment. Je regrette de manquer un petit peu de temps. On a collé un rendez-vous à midi pile, et je peux pas trop y déroger malheureusement. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Je te remercie vraiment du fond du cœur, parce que c'était vraiment vraiment super, en tout cas. Donc c'était top. Merci à toi.
Eh ben merci Barthélémy pour tout ce que tu fais aussi, et j'hésiterai pas à partager, parce que il y a plein de choses qui sont gratuites dans ce monde, et les gens vont payer des sommes astronomiques pour des choses qui finalement apportent pas plus que la gentillesse, la générosité et tout le temps que tu consacres à ce que tu fais pour les autres, et merci pour ça.
Ok, ça marche. Merci beaucoup Cyril, à bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !